Voyage Cast 72, USA et Canada, avec moi. Bonjour et bienvenue sur Voyage Cast, votre podcast sur le voyage. Aujourd'hui, et ceci n'est pas de coutume, je vais être tout seul. Cette fois-ci, oui, vraiment tout seul. Et pourquoi? Ben parce que vous avez vexé Robert de Champicast qui était venu faire l'interview il y a 2 semaines. Je vous rappelais, on parlait des USA un petit peu, du sud des États-Unis surtout, des armes aussi. On a parlé un petit peu du racisme et tout ça. Et puis, il a accepté de venir m'interviewer. Il vient d'un podcast qui s'appelle Champicast, qui est un podcast sur l'univers des champignons. Et puis, il y a plusieurs gens sur Twitter, sur Facebook, sur les commentaires du blog qui ont dit « Ouais, mais Robert, il n'existe pas. C'est la voix de Jonathan qui est transformée. » puis il n'y a pas de podcast sur les champignons, c'est quand même n'importe quoi. Bon, ben vous imaginez, le pauvre Robert, il a été vexé, quoi. Imaginez, on lui dit qu'il n'existe pas, on lui dit que c'est la fausse voix de Jonathan qui est modifiée sur Audacity, il a été vexé, il a dit « Bon, ben si c'est comme ça, alors moi je viens pas enregistrer, puis tu te débrouilles tout seul. » Alors je me débrouille tout seul. Sachez que je suis pas fou au point de m'interviewer tout seul, quand même. Faut être malade pour faire ça, puis pour modifier sa voix et tout ça, non, c'est... Non, ça fonctionne pas, je ne suis pas comme ça, Robert existe. Il a même écrit un livre qui s'appelle « Du zygomicota », vous voyez, c'est compliqué, hein, « Au champignon atomique, histoire du champignon à travers les âges », que vous pouvez acheter sur Amazon, vous pouvez aller voir, vous le verrez. Bref, désolé Robert, hein, vraiment, je t'avais invité, je pensais que mes auditeurs étaient sympas, mais finalement pas. Bref, assez rigolé avec ça. Aujourd'hui, je vous parlais donc tout seul aussi parce que c'est plus personnel, de mon voyage aux USA ou au Canada. Il y a plusieurs éditeurs qui ont demandé « Est-ce que tu pourrais pas nous dire un petit peu ce que t'as fait et tout ça ?» Ne vous attendez pas à avoir quelque chose d'exhaustif, je suis parti pendant 2 mois en hiver justement aux USA et au Canada. C'est clairement pas résumable en un voyage cast et je vais pas en faire 10 là-dessus non plus, mais si vous allez dans ces régions, vous aurez peut-être des idées où je suis passé, où ça vaut le coup. J'ai pas parlé des trucs négatifs non plus parce que bon, ça a pas beaucoup d'intérêt de vous dire j'ai été là-bas et puis c'était chiant à mourir, ça ne vaut pas la peine, donc c'est pour ça que je vais garder ça sur les highlights. Donc que dire de plus? Rien, bah vous allez m'entendre pendant 1 heure, je vais essayer de rester en dessous de ça, et puis donc si vous supportez pas ma voix ou vous trouvez que je suis ennuyant, ben zappez l'épisode 73 ou allez écouter Entre Podcasts. Ah non, en fait j'ai une grande nouvelle pour vous, ceux qui nous aident sur Patreon le savent déjà depuis 1 mois à peu près qu'on est en train de faire un événement sur Paris avec Anne-Laure pour Entre Podcasts. Et puis ça a été décidé la semaine passée puisqu'on a reçu le OK, l'événement Voyage Cast et Entre Podcasts sera le 17 mai de cette année, bien évidemment. C'est un dimanche de 14h à 16h pour enregistrer au dernier bar à la fin du monde à Paris. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas, vous me direz? Ben, on va faire un podcast qui est la synthèse de Voyage Cast et d'Entre Podcasts, et la synthèse aussi de ce qui, moi, me plaît puisque c'est mes podcasts. Donc, on parlera voyage, science-fiction et anthropologie, tout ça réuni en un seul thème, avec des anthropologues, histoire de le faire sérieusement. Si vous êtes sur Paris, envoyez-moi un mail, dites-moi, ben, on a envie de venir, c'est gratuit, bien entendu, hein, je sais pas si j'ai besoin de préciser ça, c'est gratuit pour tout le monde. Vous aurez l'occasion de participer justement en répondant à des questions, en donnant des suggestions un petit peu pour notre truc, on va essayer de faire ça très interactif, autant avec nos invités qu'avec vous. J'y serai donc avec Anne-Laure, qui est ma collaboratrice sur Entre Podcasts, pour ceux qui n'ont jamais écouté ce podcast-là. Et puis, ben voilà, on va enregistrer pendant 2 heures, ça risque d'être assez rigolo. Et puis ensuite, on sera là pour boire des bières, parce que c'est plutôt un endroit super sympa où boire des bières. On sera dans la salle médiévale, d'ailleurs, qui nous permettra d'être vraiment au silence et tranquille entre nous. Et puis, ce sera enregistré, ce sera diffusé sur Voyage Cast et Entre Podcasts pour ceux qui n'auront pas l'occasion d'y venir. D'ailleurs, on sera pendant cette semaine-là, c'est-à-dire du mardi au dimanche, on sera sur Paris, on sera là-bas pour faire des interviews, c'est notre but, on est là-bas pour bosser, pas pour aller visiter, pour le coup on connaît bien Paris les deux, mais si vous êtes sur Paris et que vous n'avez pas forcément l'occasion de venir le dimanche parce que vous avez quelque chose d'autre de prévu, N'hésitez pas à nous envoyer un tweet non plus, à nous contacter sur Facebook ou via email pour nous dire, ben tiens, si un soir t'es libre, on va se boire une bière. Moi j'aurai plaisir, Anne-Laure aurait plaisir, et puis ça nous permettra d'échanger un petit peu en dehors du podcast et puis de se voir dans la vraie vie. En tout cas, ça me fera plaisir de vous voir, ça me ferait plaisir de vous voir à Paris, si vous avez l'occasion, 17 mai, au dernier bar à la fin du monde, de 14h à 16h et plus si affinité. Que dire de plus? Ben, bonne interview.
Le pauvre, on dirait qu'il s'est donné beaucoup de mal.
Bon, c'était bien. Même si c'est le roi des gaffeurs,
c'est vrai que ça n'a rien d'insultant.
Au moins, t'auras matière à raconter, pas vrai? Pas vrai?
Tu goûteras mon riz, il est extra.
Attends. T'as décidé de le revoir?
Bon, écoute, tu disais que je partais du principe que les hommes vont me décevoir, non?
Ouais.
Ou qu'ils vont se planter en beauté.
C'est ce qu'il a fait.
Ouais, mais il l'a fait avec brio. Ouais, mais c'est dingue, il a vraiment tout raté.
Et ça, c'est ce que tu trouves si attirant.
Ouais, c'est bizarre, hein?
Je vais essayer de commencer avec un tout petit peu de storytelling pour vous dire un petit peu pourquoi j'ai commencé à voyager dans ces endroits. À l'origine, je devais aller seulement au Québec pour aller interviewer des gens sur leur vie indépendante dans les fermes pour faire un reportage audio pour le Grand Bivouac. Ben, avec le boulot, ça a pas vraiment joué parce que finalement, je suis parti plus tard que ce que je devais. Et donc, du coup, je me retrouvais en hiver et avec la quasi-impossibilité d'aller atteindre certaines de ces fermes-là, qui du coup ne sont pas vraiment intéressantes en plus parce que ça reste des maisons isolées avec des gens dedans mais qui ne fonctionnent pas. Donc, pas un moment très intéressant pour faire du documentaire. En plus de ça, compliqué à aller atteindre ces fermes sans avoir de voiture. J'avais pas tellement l'envie de prendre une voiture tout seul à moins 40 degrés au risque de me retrouver planté quelque part au milieu nulle part sans avoir de réseau cellulaire. Donc je me suis dit bon, on va la faire cool, j'ai jamais été au Québec, on va prendre la température un petit peu, aller prendre contact. Puis je me suis dit ouais, mais en même temps je vais au Québec, j'ai envie de retourner à New York une fois, donc hop, j'organise mon voyage pour aller à New York. Ensuite je me dis mais du moment que je suis à New York, j'ai tellement envie d'aller à Washington, donc du coup je vais aller à Washington aussi. Puis du coup, comme j'étais à Washington, ben vous le savez si vous avez entendu l'avant-dernier épisode de Voyage Cast, j'ai rencontré une jolie fille dans l'avion qui m'a dit « Hey, mais pourquoi tu vas pas dans le Sud ?» Du coup, j'ai été en Caroline du Sud. Et comme j'étais en Caroline du Sud, eh ben je me suis dit « Pourquoi pas aller à Nouvelle-Orléans ?» Puis comme j'étais à la Nouvelle-Orléans, je me suis dit « Ben, pourquoi pas aller à Memphis ?» Et du moment que j'étais à Memphis, je me suis dit « Pourquoi ne pas aller à Chicago ?» et faire la boucle pour aller sur New York. Bref, vous voyez que ce que je vous dis sur Voyage Cast, qu'il faut être plus ou moins organisé, ben je le suis vraiment plus ou moins dans mes voyages. Je sais quand même à peu près où je vais avant de partir, et après je ne suis pas du tout mon programme une fois que je suis parti. Bref, je fais n'importe quoi, mais c'est super cool, parce que du coup ça me permet de voir des choses que j'aurais jamais pensé. Donc je suis arrivé à Washington, j'ai été chez mon couchsurfer qui s'appelait Julian, qui était un mec vraiment génial, c'est lui qui m'a encouragé à aller à la Nouvelle-Orléans, et ce qu'il faut savoir c'est que les 4 ou 5 premiers jours, j'étais à Washington pour être auditeur, on va dire, au meeting annuel de l'Association américaine d'anthropologie, tout ça pour Anthropodcast. D'ailleurs, s'il y a des podcasteurs qui m'écoutent, je pense que c'est vraiment un truc important dans le podcast. Il faut pas hésiter à demander d'aller dans des endroits comme ça. Alors pour être clair, ils vont pas payer le billet d'avion, hein, mais c'est une conférence qui coûte très cher. En l'occurrence, si on n'est pas anthropologue, si on ne fait pas partie de l'Association américaine d'anthropologie et si on n'est pas étudiant, ça m'aurait coûté à peu près $500 pour participer à cette conférence sur 5 jours. Pour ceux qui se disent « Ah, mais c'est super cher !» Non, dans les faits, c'est pas vraiment super cher. Une conférence en Suisse sur une journée, ça peut facilement coûter plus d'une centaine de francs suisses. Donc, en l'occurrence, 5 jours à $500, en réalité, c'est une conférence qui a un prix tout à fait normal, surtout quand on pense que c'est à Washington et que c'est la plus grande association d'anthropologie au monde. Donc bref, mes 4 ou 5 premiers jours ont été passés là-bas. Ceux que ça intéresse de savoir qu'est-ce qui se passe dans ce genre de conférence, on a fait des épisodes spéciaux sur Anthropodcast, donc mon podcast qui est dédié à l'anthropologie, histoire que ça vous gaffe pas si c'est que le voyage qui vous intéresse. Mais il y a vraiment des choses très intéressantes à apprendre dans ce genre de conférences, et puis c'était génial de se trouver avec plein d'Américains anthropologues qui vont un peu partout dans le monde, c'était génial. Donc à Washington, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est avant tout une ville de musées, et elle est géniale pour ça, il y en a plein partout, et un des gros avantages, c'est que les musées sont pour l'essentiel gratuit. Et vous verrez que quand je parle de Chicago, quand je parle de New York, c'est des villes, si vous avez envie d'aller dans les musées, qui vous coûtent rapidement très très cher à la journée, surtout si vous voyagez comme moi un petit peu au sac à dos et en essayant quand même de limiter un peu les dépenses, c'est très compliqué, alors que sur Washington, mis à part si vous allez à l'hôtel ou des trucs comme ça, il y a vraiment moyen d'y rester plusieurs jours, voire même une semaine, en allant chaque jour dans des musées différents, qui sont des musées incroyablement énormes, qui sont parmi les meilleurs de la planète, clairement, et de pouvoir profiter de ça gratuitement. Excusez-moi si j'ai la voix qui part en vrille sur cet épisode de VoyageCast, c'est ma maman qui m'a refilé la crève, c'est sa faute si j'ai une voix pourrie sur cet épisode. Donc qu'est-ce qu'il y a à voir à Washington dans les musées? Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai été au musée de l'air et de l'espace à Washington, qui est un musée vraiment incroyable si vous vous intéressez à tant soit un peu à l'aviation et même si vous vous intéressez pas. Le problème de ce genre de musée, en fait, quand on y va, comme la plupart des musées d'ailleurs, c'est ce que je pense des musées, c'est qu'à la base ils sont chiants. Vous avez des avions avec des noms et puis des dates et puis c'est pas intéressant. Franchement, c'est pas intéressant. Il y a rien d'intéressant dans un avion comme voit comme ça, à part si on travaille dans l'aviation. Ce qui est intéressant, c'est de savoir l'histoire de cet avion-là. Et ce qui est génial à Washington, c'est que vous avez l'occasion de faire des visites qui sont gratuites de ces musées-là. Et là, vous avez quelqu'un qui est passionné par l'aviation, qui sont pour la plupart pilotes d'ailleurs, qui va vous expliquer l'histoire de ces avions-là, et il va sauter d'avion en avion dans le musée comme ça, en vous disant, ben voilà, celui-là, il était à telle époque, et puis, ah, il faut que je vous raconte la petite anecdote, et vous savez où il a atterri celui-là, et puis vous savez que machin, il s'est perdu dans le triangle des Bermudes. C'est vraiment génial, ça donne justement un caractère totalement autre et du coup vous transformez un objet potentiellement inintéressant pour vous en une histoire, et les histoires, on aime tous. Enfin, normalement en tout cas. J'ai aussi eu la chance assez incroyable d'aller voir Interstellar dans ce musée, parce que il y a des salles de cinéma qui sont IMAX, qui permettent de voir des reportages qui sont vraiment chouettes aussi si vous aimez l'espace et l'aviation, mais ils diffusent aussi des films normaux, on va dire, et là c'était Interstellar, et l'avantage qu'il y a, c'était que c'était, pour ceux qui connaissent le cinéma, hein, c'était sur pellicule IMAX 70 mm, c'est-à-dire globalement le format dans lequel le réalisateur a filmé le truc, et le format qui est censé être le meilleur format dans lequel voir le film. J'avais déjà été le voir à Berne en Suisse, c'est vrai que là ça donnait une ambiance toute particulière. Alors c'est assez bizarre parce que on a été dans une séance de nuit et c'est indiqué nulle part, donc en fait vous essayez de rentrer dans le musée, on vous dit non, il faut pas rentrer, donc vous attendez, vous trouvez finalement avec un groupe de personnes qui se disent ah, vous êtes aussi ici pour regarder Interstellar? Oui, moi oui, j'y suis là pour ça, oui. C'est où? Ben je sais pas, je suppose là. Puis vous attendez comme ça jusqu'à que quelqu'un vous ouvre la porte, puis vous puissiez aller dans la salle. Mais c'est vraiment extraordinaire. Alors c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas été voir des films sur pellicule, et ça change, on voit les petites poussières, on voit les petits trucs, mais bon, c'était vraiment incroyable, le son était incroyable, parce que Interstellar a un son très complexe à rendre en salle de cinéma, il y en a beaucoup qui saturaient par exemple, suffisait que la salle était mal réglée pour que ce soit dégueulasse, et là, c'était vraiment incroyable. Bref, rien à dire là-dessus, si vous avez pas vu Interstellar, vraiment allez le voir, et surtout si vous avez vu Interstellar, il y a un épisode de Podcast Science, vous savez c'est un podcast que j'adore, que j'écoute dès que je peux, ils ont fait un épisode spécial sur Interstellar, donc si vous voulez le trouver, si vous êtes intéressé à la science qu'il y a derrière ce film incroyable, vous tapez sur internet « Podcast Science ». Interstellar, vous tombez sur l'épisode, vous commencez à l'écouter et vous passez une heure et demie à aller dans les étoiles avec notamment, je crois qu'il y a Julie qui a fait une partie du dossier, il y avait Nico qui a fait la grande partie, et puis un autre que je me souviens plus son nom maintenant, mais qui est vraiment extraordinaire. Si vous avez l'occasion, écoutez cet épisode, absolument, il est fascinant. Si vous n'aimez pas les musées à Washington, il y a quand même d'autres trucs à faire, notamment aller au Fish Market de Washington. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand je voyage, je marche beaucoup, souvent sans vraiment savoir où aller, et souvent en essayant d'atteindre quelque part, mais sans vraiment savoir si je vais réussir à l'atteindre. Donc là, je me rappelle plus vraiment pourquoi j'étais en train de marcher. Je crois que je me suis dit, tiens, je vais aller au port pour voir le Potomac, pour voir je sais pas quoi. Bref, me promener. Et puis, j'arrive au port. Bon, il y a rien d'intéressant. Il est en train d'être fait. Puis je me dis, bon, moi, je vais continuer la petite route là-bas. Et je tombe sur le Fish Market, qui est un endroit où ils vendent du poisson au gros, en fait. Vous pouvez acheter du crabe, vous pouvez acheter des gros poissons, tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi manger sur place. Il y a vraiment les voitures de police qui s'arrêtent pour aller chercher leurs poissons et tout ça. C'est vraiment un endroit super sympa parce que on n'a vraiment pas l'impression d'être à Washington quand on est là-bas. Les gens sont super cool. Vous passez entre les stands, ils vous disent « Ah tiens, tu veux goûter du crabe ? Vas-y, goûte du crabe, goûte tel poisson, goûte tel machin. » Je me rappelle plus ce que j'ai mangé. Mais c'était vraiment très très bon, c'est en mode pique-nique avec les mouettes de tous les côtés, les albatros, les machins qui essayent de vous prendre votre sandwich, votre poisson et tout. Mais c'est vraiment extra, l'ambiance est superbe et j'adore le fait d'être à Washington et d'être dans un endroit comme ça. On a l'impression d'être au bord de la mer dans un village de pêcheurs, bref, c'est extraordinaire. Par contre, c'est pas très évident à y aller à pied parce que les États-Unis sont pas faits pour la marche à pied, elles sont faites pour aller en voiture. Donc il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez pas aller sans voiture, à part si vous vous mettez à traverser des endroits un peu bizarres, ce que je fais effectivement quand je voyage. C'est d'ailleurs le cas du Pentagone, parce que j'ai été visiter le Pentagone. Chose à noter avant d'aller visiter le Pentagone, il faut s'inscrire 90 jours à l'avance. Il faut envoyer votre demande. Il faut payer, je crois, $15 pour je sais pas quoi. Et puis, il faut donner votre numéro de passeport, votre truc, tout ça. Ils vont fouiller dans votre ordinateur, dans votre vie numérique. Est-ce que vous êtes un terroriste ou pas? Et puis, une fois qu'ils se sont dit, ben non, c'est pas un terroriste, vous avez le droit d'y aller. C'est un peu enquiquinant parce que vous le savez, à peu près un jour ou deux jours avant. Donc bon, ben au pire, vous y allez pas et puis c'est pas grave. Mais je pense que l'essentiel des gens sont de toute façon reçus, à moins que vous ayez fait des trucs bizarres dans votre vie. Et donc, je me mets à marcher en direction du Pentagone et c'est une horreur à atteindre. C'est très facile à y aller en métro, mais à pied, c'est impossible. Pour tout vous dire, je suis arrivé à un endroit, j'ai dû traverser des voies rapides. À un moment, je suis arrivé dans un endroit, il y avait plein de caméras bizarres. Après, j'arrive dans un endroit, puis il y a un garde qui me dit « qu'est-ce que vous faites là ?» Puis moi, je dis « ben, je sais pas, moi, je cherche le Pentagone. » Et puis, c'était vraisemblablement pas du tout le chemin. Il me dit « mais non, c'est pas du tout par là, faut aller par là, bref. » Mais c'était très rigolo. Pas beaucoup de mots sur le Pentagone, parce que, comment vous dire, c'est pas réellement intéressant d'y aller. Dans les fêtes, c'est un grand bâtiment. Vous entrez, vous allez voir tous les shops qu'il y a. Il y a des restaurants dans le Pentagone. Bon, c'est pas intéressant. Vous allez aller dans plein de couloirs qui sont pas intéressants. En bref, il y a rien d'intéressant au Pentagone, à part le mec qui vous fait la visite. Parce que, en soi, ce que vous allez voir, c'est totalement inintéressant. Par contre, c'est fascinant de parler à quelqu'un qui est un vrai patriote, comme on peut le dire dans les films. Et en l'occurrence, par exemple, le gars qui nous avait fait la visite faisait partie de la garde d'apparat ou un truc comme ça. Et donc, il avait déjà vu Obama, etc. Donc, c'était rigolo de parler avec lui. Et c'est des mecs qui sont convaincus de faire des choses extraordinaires pour le bien de la nation et tout ça. Et attention, je critique absolument pas le côté militaire de ça, je respecte ce statut-là, mais c'est vraiment fascinant de parler avec eux, et c'est aussi très très étrange, parce qu'il y a toute une partie de la visite que vous ferez dans l'aile qui a été détruite par un avion. Donc vous allez là-bas, ils vous expliquent comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'il y a de neuf, qu'ils ont gardé les fenêtres qui sont restées intactes, etc. Il y a un petit mémorial, vous pouvez aller. C'est des endroits que je trouve toujours gênants, parce que moi je suis pas forcément de la même confession religieuse que les gens qui étaient là, que les gens qui sont morts dans l'avion, donc je trouve ça un petit peu bizarre. Et puis ils vous racontent l'histoire de l'avion, etc. Et je vais pas rentrer dans un truc de complotiste, mais franchement, même quand on est à l'endroit, on se dit franchement, c'est quand même un petit peu bizarre, quoi. Ou c'était un avion, ou c'était un missile, ou j'en sais rien, mais c'est vraiment un coup... bref, pas rentrer dans les détails, mais je trouve ça assez bizarre, donc voilà. Puis oui, ils sont convaincus, bien sûr, de la thèse officielle, qui est peut-être tout à fait vraie, hein, mais bon, voilà. Rien à dire sur ce sujet-là, mis à part que ça vaut la peine d'aller à Pentagone, pas pour voir des choses extraordinaires, mais pour discuter justement avec ces gens, pour vous balader, vous voyez des photos de généraux 5 étoiles, des photos d'avions, de machin, c'est tout à la gloire de l'armée, mais c'est normal, vous êtes dans le Pentagone. Il n'y a absolument pas à être étonné là-dessus. Ça reste un truc, si vous avez le temps, allez-y, mais c'est pas franchement nécessaire parce que vous allez perdre beaucoup de temps à y aller parce que c'est un petit peu en dehors de la ville. Vous allez perdre du temps à attendre parce que vous devez être là largement à l'avance. Et puis, au final, vous allez passer une cinquantaine de minutes, une heure maximum à vous balader dans des couloirs qui pourraient être n'importe où, sauf au Pentagone. Un autre truc que j'ai fait à Washington et que j'ai bien aimé, c'est le National Geographic Museum, qui est aussi dans le centre de Washington. De toute façon, tout est au centre, c'est vraiment plutôt concentré, c'est une ville très pratique pour un voyageur, et c'est du National Geographic, donc la revue qu'on connaît tous, et il y avait surtout une expo qui m'a énormément plu, qui était sur le spinosaure. Alors j'adore les dinosaures quand j'étais petit, maintenant j'y prête beaucoup moins attention, mais ça reste quelque chose que je trouve fascinant. Ce qui est génial dans ces expos, c'est que c'est tout sur le storytelling, justement, je vous disais avant, au musée de l'air et de l'espace, voir des avions, c'est complètement inintéressant si on vous dit pas ce que c'est. Et là, l'expo sur le spinosaure, par exemple, je sais pas si elle est encore là, mais elle est fascinante et toutes les expos sont préparées avec la même technique, en fait. Et donc, quand vous rentrez dans l'expo, on va vous prendre la main et on va vous amener jusqu'au spinosaure. Donc, ça va vous expliquer l'histoire, où ont été trouvés les premiers trucs. Il y avait des petites vidéos scénarisées qui sont mises avec des instruments de l'époque et tout ça. Et du coup, à la fin, quand vous voyez le spinosaure, vous êtes « Ah, c'est extraordinaire !» Alors que si on vous l'avait montré juste comme ça, bon, ça reste des os. Bon, bref, c'est des os de dinosaures comme j'en ai vu des millions. Alors qu'en fait, non, justement, c'est pas des os de dinosaures comme vous en avez vu des millions, parce que l'histoire qui a mené à trouver tous ces ossements est extraordinaire et c'est une chance incroyable qu'on ait pu avoir ces autres dinosaures. Bref, si le sujet vous intéresse mais que vous pouvez pas aller à Washington, il y a un numéro spécial de National Geographic qui est sorti justement sur le spinosaure, d'où est sortie cette exposition. Je l'avais lu à l'avance, donc je m'étais déjà spoilé en fait parce que je suis abonné au National Geographic, mais ça reste hyper intéressant à suivre. Sinon, sur Washington, j'ai pas envie de passer trop de temps. C'est une ville extraordinaire aussi parce qu'elle est très cinématographique. La Maison Blanche, le Lincoln Memorial, tout ça, on l'a vu des milliers de fois, l'obélisque, et ça vaut vraiment la peine de le voir en vrai une fois. J'ai eu la chance en plus d'avoir un temps incroyable pendant la journée où j'ai été voir ces choses-là. Ça vaut la peine. Vous pouvez tout faire à pied, même s'il faut quand même marcher pas mal, parce que c'est juste incroyablement grand, les espaces qu'il y a entre les monuments, mais c'est magnifique, les gens se promènent, etc. Il y a des fanfares militaires de tous les côtés, c'est vraiment génial. Maintenant, il faudrait que je vous parle un petit peu du sud. J'ai déjà parlé de Columbia, de Charleston et de Savannah dans l'épisode passé, donc je vais pas vous dire quelque chose de plus. Si ces villes-là vous intéressent et elles doivent vous intéresser si vous projetez d'aller aux États-Unis, écoutez l'épisode précédent, je vais pas me répéter. Par contre, je vous avais parlé un petit peu de la Nouvelle-Orléans et je vous avais dit que la Nouvelle-Orléans m'avait pas du tout séduit en tant que ville. Et c'est vrai, le French Quarter est joli, mais un quartier français, excusez-moi, mais ça m'excite pas. Il y aurait un quartier japonais, ça me semblerait beaucoup plus intéressant qu'un quartier français. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est les choses qui sont à l'extérieur de la Nouvelle-Orléans, justement. Et notamment, il y a deux choses que j'ai faites. Le classique, c'est d'aller voir les alligators, en fait, d'aller dans les bayous, en fait. Donc, vous prenez un bus qui vous emmène à une heure ou deux de la Nouvelle-Orléans. Et le trajet est vraiment sympa parce que ça permet de voir l'étendue de la Nouvelle-Orléans, de voir aussi les grandes différences qu'il y a entre le centre et l'extérieur. Et puis ensuite, c'est une ville qui est vraiment construite sur l'eau. J'avais pas cette impression-là avant d'y aller, mais moi je trouve que c'est une aberration de faire une île comme ça au milieu de l'eau où il faut des kilomètres et des kilomètres de ponts pour la relier à la terre. C'est pas étonnant qu'il y a tout qui fout le camp à chaque ouragan, franchement. Mais ensuite, quand vous entrez dans les terres, entre guillemets, c'est justement pas vraiment des terres. C'est ils appellent ça des seaux, en fait, si je me rappelle bien. C'est un mélange de marais, d'eau, d'arbres très bizarres. Franchement, là-dedans, vous pouvez aller tourner des trucs de vampires, de trucs post-apocalyptiques. Vous n'avez pas besoin de faire de décor, c'est extraordinaire. Imaginez des arbres, alors là, je ne sais pas si c'est parce qu'on était en hiver, mais qui n'ont pas vraiment beaucoup de feuilles, avec des espèces de mousse, de plantes qui poussent sur ces arbres-là, qui vous donnent l'impression que c'est des arbres morts. Tout ça dans une... Alors là, j'étais en hiver aussi, donc il n'y avait pas énormément de soleil vraiment qui donne de la chaleur à la chose. Donc ça avait quelque chose de très très froid, de brun, de gris, de presque sépia. C'est extraordinaire, mais franchement, aller passer une nuit dans un endroit comme ça, ça doit quand même être flippant la première fois, même si évidemment, il n'y a pas grand-chose de dangereux là-dedans. Par contre, quand on va dans beaucoup de musées puis qu'on lit un peu l'histoire de la région, on se rend compte que ça a dû être vraiment compliqué pour les colons qui se sont posés là, parce que c'est une horreur en fait. C'est très compliqué, vous pouvez pas vraiment faire de culture, ou alors il faut faire beaucoup d'aménagements pour faire de la culture. Vous avez de l'eau qui est essentiellement insalubre, vous n'avez pas grand chose à bouffer non plus dans ces bois-là. Les Amérindiens, eux, savaient qu'est-ce qu'il fallait cueillir, etc. Mais les premiers colons n'en avaient aucune idée. Voyager en chariot dans ces endroits-là, imaginez avec de l'eau, avec des marées, avec des choses, ça devait être une horreur. Les alligators, contrairement à ce qu'on pense, n'étaient pas réellement un danger. Un garde avec qui j'ai discuté m'a dit qu'en réalité un des plus grands dangers c'était des espèces de feuilles qu'il y a au bord. En fait, vous avez l'eau, si vous voulez, et puis après, vous avez les bords de l'eau, et il y a des feuilles vertes qui sont assez longues, qui sont, il m'a dit, extrêmement coupante. Donc chaque fois que tu vas atteindre l'eau ou chaque fois que tu veux sortir de l'eau, tu dois passer par ces trucs-là qui te coupent dans tous les sens et c'est une horreur. Ce qui est intéressant aussi, si vous avez l'occasion de discuter avec les gardes, c'est de parler un petit peu des changements qu'il y a dans les régions. Il y a notamment une invasion de je me rappelle plus quoi, un truc qui pousse dans l'eau. Bref, c'est aussi des endroits qui ça comme ça paraît un petit peu chenu, il y a des trucs qui poussent partout, des bestioles, des serpents, des alligators, des oiseaux partout, etc. Ça semble un peu être le chenu, mais ça a quand même un certain équilibre, équilibre qui est aussi en train d'être modifié, et il y a carrément des endroits qui sont complètement brûlés, enfin, ça ne ressemble plus à ce que c'était avant, parce que ça coupe tout, il y a une espèce d'herbe qui pousse et qui... En fait, vous ne voyez plus l'eau qu'il y a derrière, du coup, tout ce qu'il y a dans l'eau crève. Bref, c'est une horreur et l'homme, comme d'habitude, s'amuse à essayer de rattraper ça, plus ou moins, heureusement. Mais alors, ce qui est rigolo, si vous pouvez prendre un espèce de bateau plat qui va très très lentement avec un garde, et puis vous vous baladez dans ces bayous comme ça, vous voyez les alligators, vous voyez les oiseaux. Si vous aimez la nature, c'est cool et puis ça fait plaisir aussi, d'avoir du calme, en fait. Même si, ironiquement, c'est pas très loin de la route. Et puis là où j'ai été, en plus de ça, on a pu toucher un bébé alligator, ce qui est toujours très rigolo. Enfin, moi, j'aime bien, en tout cas. Et puis l'endroit, en plus, je me rappelle plus vraiment son nom, mais il y a plein de chats. Ils savent pas vraiment pourquoi, mais il y a des chats qui sont venus, puis il y a des chats qui vivent près des alligators, ce qui est quand même assez bizarre quand on n'est pas habitué. Mais donc, pendant qu'on attend d'aller voir les alligators, tout le monde caresse les chats, finalement. C'est plutôt pas mal. C'est peut-être pour faire attendre les gens, en fait. Ce serait pas mal. C'est un bon concept. Une autre chose quand on va dans le sud, c'est qu'il y a beaucoup de plantations. Alors c'est un petit peu dur de savoir à laquelle aller visiter parce que toutes ces visites, bien entendu, coûtent de l'argent. Moi j'ai été à Oak Alley, qui est très très connue pour cette allée d'arbres qui ont 300, plus de 300 ans, qui est vraiment extraordinaire. Et puis ça semblait être joli, donc j'ai été là-bas. Et c'est très rigolo parce que vous entrez dans la plantation, donc qui n'est plus en service, hein, vous vous en doutez. Et puis on va vous raconter un petit peu l'histoire de cette plantation. C'est très scénarisé, hein, vous entrez dans une maison, je sais pas quel style, colonial, j'en sais rien. Et il y a quelqu'un qui va vous prendre en charge et qui va vous raconter l'histoire de la maison, vous déplaçant de pièce en pièce. Et puis ces gens-là sont habillés comme à l'époque. Il y a des femmes avec, vous savez, ces très longues robes, avec les petits gants, avec les petits machins. C'est très très mignon, vraiment. Et puis ils vous racontent un peu l'histoire. Dans le sud, j'ai trouvé fascinant parce qu'ils sont fiers de leur histoire, mais en même temps, ils peuvent pas réellement être fiers de leur histoire parce que c'est quand même très lié à l'esclavage. Et en même temps, ils ont perdu. Le gars qui nous faisait la visite nous disait, mais chaque sudiste a une théorie pour expliquer pourquoi on a perdu la guerre. Alors certains ils vous diront parce qu'on a perdu ce pont-là, certains diront parce que il y a un général qui a fui de l'autre côté, certains vous dira parce qu'il y avait le général de l'autre côté qui était très fort, d'autres vous diront c'est un train de marchandises qui n'est pas arrivé à bon port. Enfin bref, il y a tout le monde a une raison et ils ont un petit peu ce mélange entre fierté puis en même temps ils ont pas trop le droit d'être fier. Je vous avais dit que je vous parlerais un peu d'esclavage dans cet épisode, j'ai pas envie de faire trop long. Par contre, il faut toujours réfléchir à certains points. Déjà, un, le storytelling officiel de l'esclavage aux États-Unis a été écrit par les vainqueurs. Et vous le savez toujours, l'histoire écrite par les vainqueurs n'est pas nécessairement fausse, mais elle est vue de l'angle des vainqueurs et pas des perdants. Donc, ce qu'on essaye de nous montrer ou l'image qu'on essaye de défendre actuellement, il me semble, c'est de dire, ben voilà, les nordistes avec Lincoln, c'était des gens super gentils, qui aimaient les noirs, qui les accueillaient dans leur famille, tout le monde s'aimait, c'était les bisounours. Puis l'autre côté, vous aviez les sudistes qui étaient méchants, qui faisaient de l'esclavage, qui tuaient des gens juste pour le fun, qui maltraitaient les gens, qui les laissaient crever, qui faisaient n'importe quoi avec leurs esclaves. Et c'est ça un petit peu l'histoire officielle qu'on essaye de vous donner, alors qu'en réalité, vous vous doutez bien, il y a beaucoup plus de nuances là-dedans. Les nordistes, ceux qui étaient avec Lincoln, ils étaient pour l'abolition de l'esclavage, mais ils étaient de loin pas pour l'égalité de l'homme blanc et de l'homme noir. Donc en fait, c'était des gens un peu plus sympas, mais pas vraiment sympas quand même, quoi. C'était un début, mais c'était de loin pas l'aboutissement. Et même aujourd'hui, quand il suffit de voir que l'égalité, j'en avais parlé la dernière fois, entre les blancs et les noirs, n'existe pas. Donc c'est une bataille qui a été commencée il y a très longtemps et qui est encore très loin d'être gagné. Si on regarde du côté des sudistes, on voit, en voyant l'histoire de certaines plantations, qu'il y a eu des maîtres qui étaient effectivement complètement abjects, d'autres qui étaient en soi, si on prend la mesure et puis si on contextualise par rapport à l'époque et par rapport aux gens qui l'entouraient, étaient des maîtres plutôt sympathiques, entre guillemets. Alors après, là aussi, il faut se méfier, parce que quand vous allez dans une plantation, l'histoire de la plantation a été écrite par les gens de la plantation. Donc forcément, maintenant, vu qu'ils ont perdu, ils vont vous dire, oui, alors, tous les autres étaient méchants, ils maltraitaient leurs esclaves, mais nous, on était gentils. Donc là aussi, il y a vraiment plusieurs niveaux de lecture à avoir. D'un côté, le discours officiel, d'un côté, l'histoire que les gens de la plantation essayent de vous vendre, et puis, à quelque part, entre toutes ces choses-là, il y a la vraie histoire qui s'est passée. Donc c'est ça que j'ai envie de vous dire, à chaque fois, essayez de changer d'angle quand vous êtes dans des endroits comme ça, surtout quand il y a énormément de sentiments, forcément, parce qu'on est tous d'accord que l'esclavage, on est très content que ça a disparu là-bas. J'aurais envie de lui dire que ça a disparu partout, mais c'est pas vraiment vrai. Ce qu'ils vont vous apprendre aussi, c'est le rôle de l'esclavage dans la société du Sud à l'époque, en fait. C'était des ouvriers mal payés, mal traités, mais c'était des ouvriers. Par rapport à certains films, je trouve qu'ils sont gênants parce qu'ils nous donnent l'illusion que c'était partout comme ça, mais un esclave, enfin, je vais prendre un point de vue très capitaliste, hein, je m'excuse, je dis toujours que je prends un avis capitaliste, mais il est toujours intéressant, il n'est pas à négliger. Un maître qui achète un esclave, et ce n'était pas gratuit à l'époque, tout le monde n'avait pas d'esclaves, les gens riches avaient des esclaves, les pauvres n'avaient pas d'esclaves, et donc quelqu'un de riche, capitaliste, il va vouloir garder son argent et le dépenser pour des trucs cool. Donc il va acheter un esclave, ça va être pour qu'il lui rende un travail. Alors forcément, il va l'user au maximum, c'est-à-dire qu'il va effectivement lui demander de faire 12 à 14 heures de travail par jour, ce qui est énorme et ce qui est inhumain. Je vous rappelle quand même qu'il faut regarder comment ils bossent en Chine aujourd'hui. Là, je vous rappelle aussi que la majorité de nos produits qui nous entourent ont été fabriqués dans des endroits comme les Philippines, la Malaisie, la Chine, etc. Où les gens sont pas... J'ai pas envie de vous dire qu'ils sont maltraités, la même chose que l'esclavage, mais on est vraiment pas très très loin. Hein. Allez regarder des reportages sur ces endroits-là, c'est... On est loin d'être des gentils. Aujourd'hui, nous, maintenant, vous qui écoutez ce podcast, on n'est pas des gentils, on vit dans une société de gros enfoirés qui est pas réellement si différente que la société qu'il y avait à l'époque de l'esclavage. Maintenant, on le cache parce que nos esclaves bossent pour nous, mais ils bossent pour nous à des dizaines de milliers de kilomètres. On les connaît pas, puis on dit oui, mais de toute façon, on n'a pas le choix parce que mon iPhone, je peux pas choisir un iPhone qui a été fabriqué par des gens gentils, puis qui vivent une vie magnifique en Suisse. Donc, du coup, c'est pas ma faute. Mais réfléchissez un petit peu à ça quand vous allez dans ce genre d'endroit. Justement, de voir ce côté maître est un gros salaud, l'esclave est un gentil, puis ceux qui luttaient pour les... Bref, essayez de voir le dessin en dézoomant à fond, ça va vous donner un petit peu la dimension de ces choses-là. Et puis justement, je vous parlais du fonctionnement de la société. Il y a eu notamment un gros problème quand les sudistes ont perdu, globalement, que l'esclavage a vraiment été aboli, entre guillemets, même si ça a pris plus de temps qu'on veut nous le montrer au cinéma. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Parce que d'un coup, on disait un esclave, t'es libre. Donc du coup, c'est vrai que t'as le droit de voyager, et puis on va plus te tuer parce que t'es un noir. Mais le mec, vous voulez qu'il aille où? Et puis, il y a une grosse crise dans certaines plantations parce que elles vivaient très largement au-dessus de leurs moyens déjà quand elles avaient des esclaves. Puis tout d'un coup, elles se sont mises à ne plus avoir d'esclaves et devoir payer des ouvriers. Donc, il y a eu des grosses crises parce que comment vous payez ces ouvriers-là? Alors qu'avant, vous ne les payez pas. Bref, c'est un petit peu le... Encore une fois, si on contextualise avec notre époque, on se pose le même problème, les entreprises se posent le même problème avec la Chine, par exemple, où les gens demandent de plus en plus d'avoir plus de salaire, d'avoir plus d'assurance, etc. Bref, d'avoir le même niveau que moi en tant qu'ouvrier en Suisse, et ils ont parfaitement le droit de demander d'avoir le même niveau que moi. Le problème, c'est que du coup, ça augmente le prix des produits, ça augmente le prix de tout, et ça, le système se casse la gueule. Alors nous, heureusement, comme on est des capitalistes et qu'on a inventé la mondialisation, si les Chinois sont trop chers, on va le faire en Malaisie. Si en Malaisie c'est trop cher, on va le faire aux Philippines. Si les Philippines c'est trop cher, on va le faire ailleurs. Bref, il y a toujours un peuple plus pauvre et plus dans la merde dont on peut profiter. Donc c'est comme ça qu'on fait. Mais à l'époque, dans le Sud, ils n'avaient pas tellement le choix. Ils pouvaient pas aller chercher des esclaves ailleurs. Ça ne marchait pas. Donc, ça a eu un petit peu des catastrophes sociales comme ça. Ça veut pas dire qu'on aurait dû garder l'esclavage. Hein. Attention, comprenez ce que je veux dire. Je veux dire que, sociétalement parlant, je pense qu'il y a des gens qui ont fait la guerre, et c'est d'ailleurs certain, qui ont fait la guerre pour lutter pour l'esclavage, pas pour lutter pour avoir le droit de les flageller ou de les tuer comme ils voulaient, mais simplement parce que si ils perdaient l'esclavage, Ben, le mec était dans la merde parce qu'il pouvait pas payer ses ouvriers, parce qu'il avait une vie vraiment outrancière au niveau financier. Bref, tout ça pour vous dire que c'est très intéressant d'aller dans des endroits comme ça, de se poser plein de questions, de poser des questions aux gens qui sont là. Les gens qui sont là, qui vont faire les visites, connaissent très très bien l'histoire de la région. Encore une fois, il faut tempérer ce qu'ils disent. C'est vraiment très instructif d'aller dans ces endroits-là et de recontextualiser un peu le tout. Bref, je vais finir là-dessus, mais vraiment, allez-y, c'est de l'histoire contemporaine et c'est de l'histoire qui se poursuit encore aujourd'hui, de nos jours, autrement, dans d'autres endroits, mais ça se poursuit. Je vais quitter Orléans parce que c'est un peu les choses les plus intéressantes que j'ai été faire, mis à part qu'il y a aussi des très bons restaurants. Je vous ai parlé de la bouffe du Sud la dernière fois et je la trouve extraordinaire. J'ai été ensuite à Memphis. Pourquoi ? Ben parce que j'avais pas envie d'aller à Chicago d'un coup. Et puis à Memphis, il y a le Sun Studio. Et le Sun Studio, c'est un endroit vraiment cool. C'est tout petit. Pour ceux qui connaissent un petit peu la musique, même mieux que moi, il y a des gens comme Johnny Cash, Elvis Presley et plein d'autres un petit peu de cette époque qui ont été enregistrés leur CD. Leur CD, non, j'allais dire enregistrer leur MP3. Non, ils ont été enregistrés leur disque là-bas. Et puis ils ont aussi, ça faisait un petit peu radio aussi. Bref, c'est un endroit vraiment chouette à regarder parce que ça fait aussi partie de l'histoire de la région. Et puis c'est cool, vous pouvez, vous imaginez, vous mettre à l'endroit où était Elvis Presley, prendre un des vrais micros d'Elvis Presley et faire semblant de chanter dedans pour faire un selfie pour votre maman. C'est quand même extraordinaire quand on y pense. À Memphis, il y a aussi la Gibson Factory, ou Gibson, je sais pas comment ça se dit. Qui est donc la fabrique de guitares. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs fabriques Gibson aux États-Unis. Il y en a une autre qui est, je me rappelle plus où, et une qui est à Memphis. Donc moi j'y étais le week-end, la fabrique n'était pas en fonction. Par contre on a pu voir toutes les étapes de la fabrication de guitares. Alors là c'est les guitares sèches, classiques. Et c'est fascinant parce que je pensais qu'une guitare c'était facile à faire et en fait ça a l'air plutôt compliqué. Puis en même temps, il y a beaucoup de trucs qui ont l'air de se faire à la main. Il y a un endroit où ils mettent des élastiques autour d'une guitare, enfin des trucs de fou. Et puis c'est vraiment incroyable de voir toutes ces guitares qui sont personnalisées et tout, de voir le haut niveau quand même qu'ils essayent de mettre dans la fabrication de ces guitares qui sont toujours fabriquées aux États-Unis. Je pense que c'est un truc qu'on peut soutenir. Moi, je fais pas de guitare, je fais pas de musique, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Puis ça dure aussi là à peu près une heure. Ça vous coûte 10 ou 15 dollars, je sais pas. Je pense que ça peut valoir le coup d'aller voir ça si vous êtes justement sur la route de Memphis. J'étais obligé de le faire. Bref, passons à Chicago. Alors Chicago, je pense qu'on en avait déjà parlé sur Voyage Cast quand on avait parlé de la route 66 avec Vincent. On parlait de cette ville extraordinaire et à l'époque, je crois que j'avais dit « Ah tiens, j'aimerais bien aller à Chicago, mais ce sera certainement dans des dizaines d'années ». Puis en fait, j'y étais cette année, comme quoi Jonathan ne suit absolument pas ce qu'il dit dans ses podcasts. Je raconte n'importe quoi. C'est une ville que j'ai trouvée extraordinaire parce que les bâtiments sont extraordinaires. Je trouve que c'est beaucoup plus beau que Manhattan, mais vraiment beaucoup beaucoup plus beau. C'est super moderne. Il y a l'eau à côté. Il y a le grand lac Michigan, si je dis pas de bêtises. C'est une ville très très belle. Il y a notamment tout un endroit qui s'appelle le Millennium Park où justement il y a le Bean. Vous savez, c'est cette espèce de haricot chromé où tout le monde va se prendre en photo. Et il n'y a rien à dire, c'est franchement beau. Il y a aussi le musée d'art de Chicago qui est extrêmement connu. Et moi, je n'y connais rien en art, hein, je l'ai dit la dernière fois, je suis très mauvais là-dedans. Je trouvais ça... C'est un musée qui est vraiment extraordinaire. Il est beaucoup trop gros, par contre, vous n'aurez vraiment pas le temps de tout voir. J'avoue qu'il y a plein... Je ne connais pas l'art, mais je sais qu'il y a des trucs que je trouve absolument pas intéressants, que je trouve moches. Il y a la partie la plus drôle, sans doute, c'est l'art contemporain. Drôle parce que je me demande toujours si les mecs se foutent de ma gueule ou si c'est effectivement de l'art. Notamment, j'ai vu un monochrome de Whiteman. Donc vous savez, c'est ces célèbres peintures, si on peut appeler ça comme ça. En fait, c'est un cadre avec une peinture blanche et voilà. Mais du coup, je suis content parce que j'ai pu faire une photo avec mon iPhone. J'ai pu voir ça en vrai. Donc pour tout vous dire, à un moment j'étais dans le musée, donc je passe ce truc de Whiteman machin, puis je vois des peintures qui me ah ouais tiens c'est sympa ça, c'est bizarre mais c'est sympa. Je me demande qui est l'illustre inconnu qui a dessiné ça. Je vois Salvatore Dali, je me dis ah d'accord, bon je suis vraiment mauvais là-dedans. Il y a un moment où je suis rentré dans une pièce où il y avait une espèce de lampe comme j'ai chez moi, mais avec un nom puis d'un artiste. Et puis après, il y avait un truc rouge, une espèce de plaque rouge qui était mise contre le mur. Et j'étais là et je me disais, est-ce que c'est un ouvrier qui a oublié ça là? Est-ce que c'est de l'art? Je n'en sais rien. Ça m'a perturbé abondamment. J'ai fait une photo, il n'y avait pas de nom, rien. Donc si ça se trouve, j'ai une photo d'art incroyable sur mon téléphone, mais je ne suis pas sûr si c'est de l'art et j'ai pas envie que les gens se foutent de moi si je le mets sur Instagram. C'est terrible, hein, mais ceci dit, c'est rigolo parce que dans ce genre d'endroit, on se met à se poser la question quelle est la limite entre l'art et le n'importe quoi. Donc finalement, c'est peut-être ça que le gars voulait faire, j'en sais rien. Je suis tombé notamment sur un immense arbre qui a été évidé de l'intérieur et sculpté par un artiste japonais. C'est dans une pièce toute blanche avec cet arbre couché au milieu. Je dois dire que c'est pas dénué d'art là-dedans, même si je me demande où c'est. Mais bref, enfin, il y a plein de petits trucs comme ça que vous verrez où il y a des trucs qui vous toucheront pas, des choses qui vous toucheront plus, des choses qui vous feront poser des questions. Je trouve ça, j'ai vraiment adoré ma visite là-dedans justement à cause de ça, parce que ça vous fait poser plein de questions sur votre propre connexion avec l'œuvre qu'il y a en face de vous, si j'ose utiliser ça. Vous voyez qu'il y a des trucs qui, voilà, c'est nul, et des trucs qui vous touchent beaucoup. Je dis, quand vous êtes dans le musée, il y a des endroits où vous avez des baies vitrées, vous avez la vue justement sur Chicago, parce que c'est un petit peu à l'extérieur du centre-ville vraiment, et c'est extraordinaire. Vous pouvez faire des photos qui sont extraordinaires, c'est waouh, c'est vraiment magnifique. Un autre endroit où j'étais à Chicago, c'est le musée d'histoire naturelle, qui est vraiment magnifique aussi. C'est des musées qui ont une qualité qui est extraordinaire, vraiment. Vous avez l'occasion d'en apprendre beaucoup. Je trouve toujours dommage les gens qui vont dans des villes sans aller dans les musées. Et je sais qu'il y a des gens qui m'ont écrit aussi, qui m'ont dit « Oh, les musées, moi, ça me fait chier, globalement. » Et c'est toujours un tort, parce que quand vous avez un musée où il y a à la fois de la biologie moléculaire, de l'histoire naturelle, de l'histoire d'un peuple, de l'histoire du pays. Là, il y avait une exposition très, très bizarre sur le vaudou haïtien, mais qui était intéressante parce qu'elle nous apprenait vraiment ce que c'était, justement la différence entre ce qu'on entend dans les médias et la réalité, et puis aussi le parallèle, bien entendu, avec le sud des États-Unis, avec notamment la Nouvelle-Orléans, où le vaudou, où toutes ces choses-là sont aussi très, très présentes, donc de voir la différence qu'il y a eu d'évolution entre les deux. S'il vous plaît, faites-moi plaisir, allez dans un musée quand vous allez dans la ville, allez dans le plus grand, allez dans le plus classique si vous voulez. Si vous n'arrivez pas à trouver ça intéressant, c'est peut-être que le problème est chez vous, j'en sais rien, mais il y a toujours des choses fascinantes à voir. Et puis si vous aimez moins les musées, moi j'ai été dans l'aquarium de Chicago, je trouve toujours bizarre d'aller dans un aquarium, je sais jamais si j'ai raison d'y aller ou pas, parce qu'au final c'est quand même cloisonné des animaux qui ont l'océan pour aller, et nous on les enferme comme ça dans des endroits qui sont beaucoup trop petits pour eux, et donc je sais jamais si j'ai le droit d'y aller, si je me sens bien en y allant, je sais pas trop. Mais l'avantage de ces très grands aquariums, c'est quand même qu'il y a un grand niveau technique là derrière, et les animaux sont, j'espère, plutôt bien traités. D'ailleurs, il y a un truc que je n'ai pas fait parce que j'ai pas été là-bas, mais à Atlanta, c'est un des plus grands aquariums au monde où vous avez l'occasion de voir un requin baleine. Alors là, voilà, comme je vous disais avant, je brûle entre l'envie d'aller voir un requin baleine, et en même temps, je sais que c'est pas bien, mais j'ai quand même envie d'y aller. Je sais qu'aux Philippines, je m'étais trouvé dans l'occasion aussi, j'aurais pu aller dans un endroit où ils nourrissent les requins baleines et on peut aller les voir. J'ai toujours l'hésitation personnelle, la bataille dans mon cœur entre j'ai envie de voir ça, et en même temps, est-ce que je participe à un truc un peu dégueulasse? Bref, on va passer là-dessus. Sur New York, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je vais être très rapide là-dessus parce que j'ai envie d'aller sur le Canada et ça fait déjà longtemps que je vous parle. Le Chelsea Market, qui est un endroit où je suis tombé par hasard parce que je marchais, mais où les gens vont vraiment parce que c'est un truc touristique. Enfin, c'est un truc touristique en réalité, le Chelsea Market, c'est un endroit extraordinaire à l'intérieur où vous pouvez manger des trucs d'un petit peu partout. Vous pouvez manger chinois, japonais, américain, machin, mexicain, etc. C'est entre guillemets de la bouffe de rue, mais classe, quoi. C'est vraiment de la bonne bouffe, mais les prix sont tout à fait raisonnables. C'est bourré de monde, c'est incroyable. Moi, j'ai mangé mexicain, et figurez-vous que je suis tombé sur un gars qui venait vraiment du Mexique, qui avait été faire un voyage en Suisse. Il avait été à Berne. Le truc incroyable. Vous en foutez peut-être, mais moi, j'ai trouvé ça rigolo, parce qu'on a parlé en allemand au Chelsea Market. Et puis surtout, le Chelsea Market est à une des extrémités quasiment de la High Line. Qu'est-ce que c'est la High Line? C'est une ancienne voie de métro désaffectée qui a été réhabilitée en chemin pour se promener au milieu des immeubles. C'est une promenade magnifique. Si vous avez l'occasion d'y aller justement, en tout cas en hiver, vers la soirée, vers quand le soleil se couche, imaginez d'avoir 350 personnes en train de regarder un coucher de soleil comme j'en ai très rarement vu dans ma vie. C'est un endroit super chouette et encore une fois, ça permet de s'oxygéner un petit peu à New York. J'étais dans un endroit aussi super sympa qui s'appelle Rise to Reach. Le nom vous dit probablement rien, mais je suis un grand fan du film Hitch, expert en séduction avec Will Smith, parce que voilà, on aimait bien le film avec un de mes amis, et puis on le regardait de temps en temps, puis comme il avait beaucoup de démoirs amoureux, on rigolait beaucoup sur ce film, en buvant du whisky, et c'était vraiment excellent. Et à un moment, les deux héroïnes principales de ce film vont manger à un endroit qui s'appelle Rise to Reach, et c'est du riz au lait, je crois, ça s'appelle comme ça, avec plein d'arômes. C'est un endroit extraordinaire parce que tout est bon et tout est lourd. Pour vous dire, j'étais chez Adrien, donc qui m'avait accueilli chez lui à New York. D'ailleurs, bisous à Adrien si tu m'écoutes à New York. Et puis j'ai été là-bas, je me promenais dans l'Italie, je me suis dit tiens, je vais ramener à manger aussi pour Adrien. Puis je demande pour une personne, il me sort un espèce de bol tout petit. Je lui dis non, mais c'est ridicule, le pauvre Adrien, il va croire que j'essaye de lui faire faire un régime. Donc du coup, j'en ai pris deux. On a pris ça le soir et on n'a pas réussi à finir. C'est extrêmement riche, hein. C'est pour ça que ça s'appelle Rise to Reach. Et mais c'est tellement bon, c'est écœurant, mais c'est bon. Bref, allez là-bas, c'est près de l'Italie. Et d'ailleurs, relativement près de l'Italie aussi, il y a un magasin qui pourrait vous intéresser, qui s'appelle Obscuria. Obscuria, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le magasin qu'il y a dans l'émission qui s'appelle Le Cabinet des Curiosités, qui est une émission américaine, où il y a chaque fois des gens spéciaux qui recherchent des choses spéciales. Par exemple, le mec va vous dire très sérieusement, je cherche un crâne viking à telle et telle époque, avec si possible une empreinte d'arbre sur le crâne. Et ces mecs-là sont les gens qui aide ces gens-là à trouver des trucs comme ça. Et c'est un tout petit magasin, mais vous pouvez justement aller rencontrer les gens qui ont fait partie de cette émission. Et encore une fois, je vous parle beaucoup d'histoire. En soi, avoir la main d'une momie ou la tête réduite de je sais pas quoi comme personne, c'est rigolo, c'est un peu creepy, mais c'est pas vraiment très intéressant. Alors qu'eux, ils vont pouvoir vous raconter comment est-ce qu'ils ont récupérer ces objets, ça vient des fois de musées, ça vient de particuliers, ça vient de quelqu'un qui a vidé l'armoire de son grand-père décédé, puis qui a trouvé tout d'un coup, hop, une main momifiée de je sais pas quelle date avec une bague. Comment est-ce qu'on fait pour trouver de qui elle est, machin et tout ça. C'est intéressant d'aller là-bas, d'aller discuter avec les gens qui s'occupent de la boutique parce qu'ils ont des histoires extraordinaires à raconter et moi, j'adore ça. Je vois que je suis horriblement long, malheureusement. On a été voir les feux d'artifice de Nouvel An à Coney Island et il faut absolument que je vous raconte ça parce que c'était très très drôle. Donc j'étais chez Adrien et puis il me dit, ah ben, on va avec des amis, on mange, puis après on ira voir les feux d'artifice à Coney Island. Moi, je voulais aller à Times Square. Il m'a dit, oui, mais bon, Times Square, tu dois attendre pendant des heures pour voir un truc qui dure 2 minutes. C'est une horreur. Ben, si t'as envie, viens avec nous. Ok, Coney Island, j'y ai pas été, je vais y aller. Et puis, on mange, on fait trop long, bien entendu, on prend le métro. On arrive à Coney Island, je crois, 5 minutes avant les feux d'artifice. On arrive sur la plage en stress, paf, les premiers feux d'artifice. Et puis là, c'est même pas fini, on voit des gens qui se cassent. On comprend pas, ils partent alors que c'est même pas fini. Et puis, le feu d'artifice finit, voilà, et vraiment, il y a toutes les personnes qui partent. Puis nous, on se dit, mais attends, c'est bizarre, c'est étrange, les gens restent pas pour boire un coup, pour discuter entre eux, pour... j'en sais rien, quoi. Ils sont venus jusque-là pour faire n'importe quoi, mais rester. Et il y a... on entend de la musique, donc il y a un DJ avec des gens qui dansent, hein. C'est pas le truc immense, hein. C'est plutôt petit. Puis on va là-bas, puis moi je rigole, puis je dis, ouais, vous verrez que dans 5 minutes, le DJ va faire « Allez, à l'année prochaine », et il va tout couper, puis il va se barrer, quoi. Vous croyez pas que 2 minutes plus tard, le DJ il fait « Hey, c'était génial cette année, à l'année prochaine, bonne année !» Clac ! Ferme le truc, et les gens démontent le truc, mais genre, Je pense qu'il avait éteint son bouton, sa console, elle était déjà partie, quoi. Et tout le monde se barre, et il y a les flics qui viennent pour s'assurer que tout le monde se barre. Bref, je suis pas du style à faire la fête, ni aller dans ce genre d'endroit, ni à fêter de Nouvel An, ni rien. Mais j'ai trouvé que c'était une façon très particulière de fêter ça, parce que du coup, je pense qu'on a passé effectivement beaucoup plus de temps dans le métro pour aller là-bas que pour fêter quelque chose à Coney Island. Bref, c'était très très drôle. Je voulais vous parler du One World Trade Center, donc cette tour qui a été érigée quasiment à la place des deux tours qui sont tombées en 2001. Je vais pas y passer trop longtemps, mais j'ai été très surpris par le comportement des touristes qui se prenaient en selfie devant les fosses. Vous savez, il y a des fosses avec de l'eau à l'intérieur, avec tous les noms des gens qui sont morts sur le périphérique de ces fosses-là. Et ça me surprenait beaucoup de voir les gens se faire des selfies avec leur duck face. Et puis faire des... Je trouve vraiment qu'il y a toute une partie des gens qui ne réfléchissent pas du tout à ce qu'ils font quand ils sont en voyage, et je suis pas du style à aller là-bas pour pleurer ou j'en sais rien, mais enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a pas quand même une limite à avoir quand on fait des trucs comme ça? C'est rigolo de faire une selfie devant un bâtiment quelconque ou au zoo ou j'en sais rien, mais devant un truc où il y a des milliers de gens qui sont morts, qui a déclenché des événements qui ont tué encore plus de gens. Ouais, je sais pas, je trouve ça bizarre. J'irai pas dans un camp de concentration faire un selfie, je sais pas, je trouve ça toute proportion gardée, attention, hein, je dis pas que les deux sont comparables, mais pour moi, l'esprit derrière est relativement comparable quand même. Bref, on va pas parler de ça, on s'en fout. Je me suis ensuite déplacé de New York à Montréal et je l'ai fait en train, ce qui coûte un peu plus cher que le bus. Par contre, c'est vraiment, vraiment magnifique parce que vous longez, je sais pas, une rivière, un fleuve, j'en sais rien, mais vous longez l'eau une bonne partie de votre trajet et donc vous voyez, alors là, c'était en hiver, donc je voyais les pêcheurs qui faisaient leur trou dans la glace pour aller pêcher. J'ai vu des aigles américains, j'ai vu plein de trucs, c'est vraiment magnifique. Il faut pas trop regarder où le train passe parce que des fois, il y a vraiment la raille, il doit y avoir 3 cm de roche et puis ensuite, un joli petit fossé pour aller dans l'eau, mais c'est vraiment un voyage très très cool et c'est j'ai trouvé très intéressant de voyager en train. Je l'ai fait aussi entre Chicago et New York, mais ça s'est passé de nuit donc c'était moins intéressant. Je trouvais que les paysages étaient pas très extraordinaires, mais pensez au train quand vous voyagez aux États-Unis, même si effectivement c'est plutôt plus cher que le bus et que ça va pas forcément plus vite, mais vous pouvez réserver très longtemps à l'avance pour avoir des meilleurs prix. Je suis donc arrivé à Montréal, je suis pas resté longtemps, je suis parti directement le lendemain pour aller à Ottawa. Et à Ottawa, pas grand chose à dire, c'est une ville qui m'a pas du tout plu en fait, que j'ai pas trouvé extraordinaire. Par contre, il y a le musée canadien de l'histoire qui était avant le musée des civilisations. J'allais à Ottawa pour ça, donc j'ai pas été déçu, qui est un musée où une grande partie est dédiée justement à toutes les civilisations qu'il y avait. Avant la colonisation, on va dire, donc tout ce qu'on appelle communément les Amérindiens. Et c'est vraiment fascinant parce qu'il y a un mélange entre ce qui se passait avant, c'est-à-dire ils vont raconter un petit peu les légendes, comment les gens vivaient, etc. Puis il y a aussi beaucoup la problématique des Indiens maintenant qui sont dans des réserves, etc. Il faudra encore une fois qu'on en parle sur Voyage Casse parce que c'est des problèmes fascinants qu'on n'a pas, en tout cas que je vois pas qu'on a en Europe, en tout cas pas de cette manière-là. Et c'est un musée génial, si vous y allez, c'est le musée le plus visité au Canada. J'y ai été en hiver, l'avantage c'est que j'étais quasiment tout seul dans le musée. En fait, l'avantage de voyager en hiver, c'est qu'on a très peu de touristes, et donc on est souvent seul dans les musées. Ça s'est passé là, ça s'est passé à Québec aussi, où j'étais quasiment seul. Du coup, j'ai eu la visite pour moi tout seul, et vous pensez bien que moi qui est capable de parler tout seul pour faire un podcast d'une heure, quand j'ai quelqu'un avec qui parler... qui plus est quelqu'un d'intéressant, on a généralement fini 2 heures plus tard à se dire bon ben là il faut qu'on arrête de faire la visite et on n'a pas vu le quart de ce qu'on devait voir normalement dans la visite. C'est vraiment fascinant et encore une fois les gens qui sont là sont des gens qui connaissent leur job. À Ottawa j'ai aussi rencontré un mec qui faisait la musique qu'on appelle du noise. Je sais pas si vous savez ce que c'est mais c'est indescriptible parce que c'est du bruit mais c'est de la musique. Enfin bref, une rencontre super chouette, on a passé toute une soirée à boire des bières, à écouter du noise, à parler de ce que c'était du podcast, etc. C'est vraiment des rencontres super fortes qu'on peut faire en voyage, je m'en rappellerai toujours. J'ai ensuite été à Montréal, j'y suis retourné plusieurs fois à Montréal aussi avant de partir. Montréal, c'est pas pour décevoir les Montréalais, mais d'ailleurs on va en parler sur Voyagecast, il y a 3 personnes qui vivent à Montréal qui vont venir sur Voyagecast justement nous raconter un petit peu qu'est-ce qu'il y a de à voir à Montréal, etc. Mais c'est une ville que j'ai pas trouvé très extraordinaire et qui m'a pas séduit, on va dire. J'ai beaucoup encore été beaucoup plus séduit par Savannah, par exemple. Je vous en ai déjà parlé la dernière fois. C'est pas du tout le même type de ville, hein, mais Savannah m'a plu et je sais même pas vraiment expliquer pourquoi elle m'a plu, tout comme je sais pas vraiment expliquer pourquoi Montréal ne m'a pas plu. C'est peut-être parce que la plupart des Français qui vont émigrer au Canada vont le faire à Montréal et du coup ils trouvent ça génial, et je veux bien être comprendre que quand on vient de Paris, qui est une ville que je n'aime pas du tout, vous le savez très bien si vous écoutez VoyageCast, si vous partez de Paris et que vous arrivez à Montréal, je comprends tout à fait que vous adoriez Montréal. Les gens, ils sont beaucoup plus sympathiques. Moi, je pense qu'il y a moyen d'y manger beaucoup mieux qu'à Paris. Le métro est beaucoup plus agréable. Je pense, des quelques jours que j'ai passé à Paris et des quelques jours que j'ai passé à Montréal, que la vie à Montréal est beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup plus agréable que celle de Paris, notamment parce qu'il y a beaucoup moins de Parisiens à Montréal qu'à Paris. Bref, donc je peux comprendre qu'on puisse être amoureux de cette ville comme ça quand on va immigrer, mais moi en tant que touriste qui était destiné à y passer quelques jours, bon, effectivement c'est plus agréable d'être un touriste à Montréal que d'être un touriste à Paris, mais sinon ça m'a pas séduit plus que tant. Notamment, on vous parle beaucoup de la ville souterraine, vous savez, c'est un petit peu un mythe comme ça. Sous Montréal, il y a une ville souterraine, une sorte de pays merveilleux où tout est possible de faire, etc. Alors que bon, globalement, c'est des magasins et des restaurants qui sont sous la terre, quoi. Franchement, c'est pas pour diminuer le truc, hein, mais même les Montréalais trouvent ça très rigolo que quand on va à Montréal, et notamment en hiver, on veuille aller visiter la ville souterraine parce que dans le fond, elle a rien d'extraordinaire, ou en tout cas rien de plus extraordinaire que n'importe quelle ville autre. Par contre, ce que j'ai fait, là où je vous dis, où les rencontres sont finalement beaucoup plus importantes que ce qu'on fait en voyage, c'est que j'ai été à un enregistrement live d'un podcast qui s'appelle Pot Problème, qui est un podcast, je crois que j'en avais déjà parlé sur VoyageCast, qui est un podcast extraordinaire d'humour qui est fait par des Québécois, bien entendu, des gens qui sont extrêmement talentueux, et il se trouvait que au moment où je passais, où je me suis arrangé pour passer au moment où ils enregistraient en plus leur dernière émission, donc j'étais là avec des podcasteurs et c'était extraordinaire. C'est toujours chouette ces rencontres, vous savez, de rencontrer des gens que vous écoutez et de les voir en vrai et de pouvoir parler avec eux. C'est toujours des moments extraordinaires, je trouve. J'espère que ce sera aussi cool de se rencontrer avec vous quand on sera à Paris avec Anne-Laure, parce que c'est toujours plaisant de pouvoir discuter avec des gens qui ont les mêmes passions et puis la même envie de partager, etc. Enfin, j'ai trouvé ça extraordinaire. Merci à toute l'équipe de Pop Problème et à tous ceux qui étaient là. D'ailleurs, j'en ai revu quelques-uns après. Bref, c'était vraiment génial. Je vais aller très très rapidement pour le reste. J'ai été à Québec. Au Québec, Musée de la Civilisation, qui est vraiment intéressant à aller voir aussi pour apprendre l'histoire du Québec, comment tout ça s'est construit. J'ai trouvé ça vraiment fascinant. Et encore une fois, comme j'ai dit avant, j'étais seul avec la dame qui faisait la visite du musée. Donc c'était intéressant de parler de l'histoire avec elle du Québec. Maintenant, j'ai un peu plus l'impression de connaître ça. Le port est très joli. La vieille ville est plutôt sympa. J'ai trouvé que Québec était une ville beaucoup plus belle que Montréal. Surtout le vieux Québec, on va dire. Elle a l'air aussi beaucoup plus calme, en fait. J'avais un peu l'impression d'être un petit peu à Berne. Vous pouvez prendre le traversier. Ça doit vous coûter $6 l'aller-retour pour aller à Lévis, qui se trouve, qui se trouve de l'autre côté de Québec. Et en été, je sais pas si ça a vraiment de l'intérêt. Par contre, en hiver, il y a beaucoup de glace sur le Saint-Laurent. Donc, vous traversez sous la glace, vous entendez les moteurs du bateau qui donnent vraiment du mal parce que le bateau vibre, etc. C'est très rigolo. Vous avez une très très belle vue sur la ville de Québec quand vous êtes de l'autre côté. J'y étais pour rencontrer d'ailleurs un auditeur d'Anthropodcast et on a passé une petite soirée à boire des bières tranquillement. Voilà, rien à dire de plus. Hôtel de glace, il y avait l'hôtel de glace qui était là à ce moment-là. C'est un avantage de visiter justement Québec en hiver. Faut avouer que c'est vraiment, vraiment magnifique. Par contre, j'ai eu extrêmement froid. Là-bas, on atteignait les moins 30 facilement avec du vent. Et autant c'était embêtant de marcher aux États-Unis parce que c'était pas prévu pour marcher, Autant marcher au Québec sous moins 30, il fait rapidement très très froid, notamment que j'avais pas des super bonnes chaussures. Mais si vous avez l'occasion d'être à Québec, pensez à aller visiter l'hôtel de glace. Je vois que ça doit coûter dans les $20, donc c'est pas gratuit, mais j'ai trouvé ça, c'est vraiment à voir quand même, le travail qu'ils font est incroyable. Et je finis sur Tadoussac. Tadoussac qui est clairement mon coup de cœur après Savannah, je pense. Au même niveau que Savannah, mais je veux dire dans la timeline de mon voyage, c'est mon coup de cœur. Je tiens à dire quand même que j'ai vu Tadoussac en hiver, alors que la majorité des gens y vont en été, parce qu'en été on y va pour voir les baleines. C'est extrêmement touristique, c'est certainement un des endroits les plus touristiques au Canada, et il y a donc des milliers de personnes dans les rues. C'est la folie, c'est la cohue, c'est voilà tout ce monde là. Je pense que si j'y avais été en été, du coup ça m'aurait beaucoup moins plu. J'aurais aimé aller voir les baleines, mais j'aurais pas trop aimé d'avoir autant de monde autour de moi. Alors que là, en hiver, Tadoussac est tranquille, il n'y a personne. Imaginez que j'ai été à l'auberge de jeunesse, qui est un endroit extraordinaire. Allez-y, franchement, les gens qui sont là-bas sont juste géniaux. J'étais, certains soirs, le seul touriste à y être, en fait. Donc il y avait moi, il y avait les bénévoles qui s'occupaient de nettoyer l'auberge, de faire à bouffer et tout ça. Et j'étais le seul. Et juste à côté, il y a un bar qui est incorporé à l'auberge, où il y a les gens de l'endroit qui viennent boire des bières, etc. Et du coup, c'est génial parce que j'ai pu discuter quasiment qu'avec des gens du village de Tadoussac et pas avec des touristes qui venaient d'ailleurs. C'est pas que j'ai quelque chose d'autre contre les touristes, mais parler avec des Français, je peux le faire en France. Et quand je suis au Québec, j'aime bien parler avec des Québécois. Et là, donc, du coup, j'ai passé des soirées entières à parler avec des Québécois. Bisous à Sacha, à Mathieu, que j'adore, et à tous ceux qui étaient là aussi, à Stéphie, d'ailleurs, que je vais pouvoir rencontrer à Paris quand j'y vais. Bisous à tous, parce qu'on a passé des moments extraordinaires ensemble. Qu'est-ce qu'il y a à faire à Tadoussac l'hiver, vous allez me dire, parce qu'il fait froid et tout. Il fait froid, mais du coup, on peut faire du hockey derrière. On peut faire du hockey à l'auberge. C'est incroyable. On peut aller se balader dans la forêt aussi, en raquette. Moi, j'adore ça, franchement. Ça m'a ressourcé complètement. Vous pouvez aussi, c'est un truc assez rigolo à faire, vous montez en raquette, puis après, vous descendez en glissade sur les fesses. Je vous déconseille de le faire sans pantalon de neige comme moi, mais sinon, c'est vraiment extraordinaire. C'est très, très drôle. Vous pouvez marcher sur des lacs glacés, vous entendez la glace craquer sous vos pieds, tout ça, c'est... Moi, j'adore ça, j'espère que ça sent dans les paroles que je dis, mais j'adore ça, vraiment. Et puis alors là, vous avez le truc extraordinaire à faire. Franchement, ça fait longtemps que j'avais pas fait un truc aussi cool. Vous imaginez, la nuit... Alors, il y a deux trucs cool, en fait. Deux trucs cool. J'ai commencé par le truc le moins cool, les trucs les plus cool. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour aller à Tadoussac, juste avant Tadoussac, il y a pas de route, il faut prendre un traversier, qui est gratuit. Donc, un des trucs cool à faire le soir, quand vous voyez les étoiles, quand il n'y a pas de nuages, c'est d'aller sur le traversier, que du coup vous payez pas, ça vous prenez 10 minutes depuis l'auberge, vous grimpez sur le premier étage du traversier, puis vous vous couchez sur le bateau, et vous regardez les étoiles en vous déplaçant sur l'eau, c'est génial. Puis quand le traversier change de direction, vous avez l'impression que c'est la voûte céleste qui bouge au-dessus de vous, vous avez l'impression d'être dans un planétarium ou je sais pas quoi, c'est extraordinaire. Et puis le deuxième truc, alors là, c'est génial, vous attendez la nuit quand la marée est basse, puis vous allez marcher sur la plage. Et là, vous avez la bioluminescence. C'est-à-dire, c'est faux de dire que c'est le plancton. Enfin, c'est pas faux de dire que c'est le plancton, mais le plancton, c'est toutes les bestioles, tout le phytoplancton, le zooplancton, tout ça. Et il y a des petits machins là-dedans qui font de la lumière. Ils peuvent faire de la lumière pour se défendre. Ils peuvent faire de la lumière pour attirer le prédateur un petit peu plus loin. Ou alors, ils peuvent faire de la lumière pour attirer le prédateur, pour qu'il les bouffe, pour qu'ensuite, ils puissent se reproduire. Bref, il y a des systèmes assez incroyables si ça vous intéresse. Et donc, vous marchez sur la plage et ça fait comme dans Avatar. À chaque pas que vous faites, vous avez l'eau, enfin le sable mouillé plutôt, qui s'illumine sous vos pas. Puis quand vous trouvez une flaque d'eau de mer, vous shootez dedans et ça fait paf, une super lignée de bioluminescence devant vous. C'est juste extraordinaire. C'est là où tu peux avoir 10 ans comme 50 ans. Tu te mets à courir dans l'eau et puis à shooter dans l'eau et puis à voir toute cette luminescence. C'est vraiment, vraiment incroyable. J'aurais plein de trucs à vous dire sur Tadoussac, sur les gens qui sont là-bas, sur les problématiques qu'ils ont là-bas aussi, notamment à la prise d'indépendance énergétique, etc. Parce que bien sûr, quand je suis là-bas, moi, je parle de plein de choses, mais j'ai pas envie de trop vous en dire. Le bilan final que j'ai sur le Québec, c'est que c'est génial d'y aller en hiver, Mais les Québécois ne le savent pas. Ou plutôt, ceux qui travaillent dans le tourisme ne le savent pas. C'est-à-dire qu'il y a plein d'endroits que vous ne pourrez pas atteindre sans voiture. Par exemple, il y a Sainte-Rose-du-Nord, qui est un petit village incroyablement beau, qui se situe sur une baie avec de la neige à plus savoir qu'en faire. C'est des endroits extraordinaires, mais où le tourisme n'est pas venu. Et je suis pas vraiment pro-touriste à aller faire un bâtiment de 40 étages à cet endroit-là, mais c'est tellement pas touristique, ils ont tellement aucune confiance en eux qu'il n'y a même pas un endroit où dormir là-bas, il n'y a même pas un endroit où bouffer, il n'y a même pas un endroit où aller aux toilettes. Je prends l'extrême, mais il y a plein d'endroits comme ça en fait où j'ai l'impression que les Québécois ils doivent se dire bon, il fait trop froid, on reste tranquille. Faut dire aussi que beaucoup de ces endroits-là ont des travaux saisonniers, c'est-à-dire que c'est très très touristique en été, puis en hiver c'est éteint, mais c'est pas réellement grave vu qu'ils ont de quoi survivre avec ce qu'ils ont travaillé pendant l'été, puis ils ont peut-être aussi envie d'avoir des vacances, j'en sais rien. Peut-être qu'ils partent en Floride pendant ces temps-là, j'en sais rien. Mais si vous avez l'occasion d'aller au Québec en hiver, faites-le. Faites-le peut-être juste à deux ou trois ou quatre et louez-vous une bagnole parce que ça va vraiment vous faciliter la vie. Il y a des endroits où j'ai pas pu aller parce que je n'avais pas de voiture et puis aussi parce que je voulais pas forcément prendre une voiture au risque de me retrouver coincé quelque part et puis de devoir attendre des heures sous moins 40 parce qu'il fait vraiment très froid. D'ailleurs, un truc pour le froid, faites la même chose que moi. Achetez des bonnes chaussures, pas quand vous retournez à Montréal. Mais avant de partir dans le nord, parce que sinon vraiment vous allez souffrir. Achetez-vous plusieurs couches de vêtements et tout ça. Mais une fois qu'on est bien préparé, franchement, marcher sous moins 25, sous moins 30, c'est plus un problème du tout. Par contre, vous êtes dans des endroits où la nature elle est calme. Si vous aimez la nature, la forêt, tout ça, j'ai pas besoin de vous le dire, vous savez déjà. Et si vous aimez pas la nature, ben je vois pas comment je pourrais vous faire aimer ça, à part en vous disant que vous ratez un truc énorme en ne profitant pas de ça. Et puis, dernier conseil peut-être, moi j'ai décalé mon voyage en janvier. Au début, je devais y aller là-bas en décembre, parce que en décembre, plus les années avancent, et puis moins il y a de neige en décembre. Et plus la neige a tendance à se décaler entre janvier et février. Par exemple, maintenant, en février, enfin maintenant on est en mars, mais février-mars, il y avait encore de la neige, il y a encore des moins 20, je crois que il y a eu 0 degré hier, alors qu'on est en mars, et que c'est la première fois que ça titille le plus que zéro à Montréal, donc dans le nord c'est plus froid. Donc si vous avez envie de profiter de la neige, n'allez pas au Canada en décembre, parce que c'est risqué. Vous pouvez autant avoir de la neige que ne pas en avoir du tout. La neige est tombée à Montréal à partir du 1er janvier, je crois, l'année donc où j'ai voyagé. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire sur mon voyage. Si vous avez des questions, des remarques ou que j'ai parlé de choses et puis que j'ai été trop vite et puis que vous avez envie d'avoir des précisions, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi, comme d'habitude, via Facebook, Twitter ou webmaster@voyagecast.ch par mail, je vous répondrai bien volontiers, je vous enverrai des infos si vous en avez besoin. Comme je suis tout seul, je ne vais pas faire une conclusion spécifique, ça n'aurait aucun sens de me remercier moi-même pour avoir parlé pendant une heure. Les films qui sont présents sur cet épisode, le premier c'est Hitch Expérience Séduction, parce que c'est à New York et parce que j'ai été à Rides to Rich et qu'il faut que vous y alliez aussi si vous allez à New York. Et le deuxième est un extrait d'une émission québécoise comique qui s'appelle Les Beaux Malaises avec Martin Matt, qui est vraiment très très drôle à regarder. Je trouve que ce mec est vraiment très talentueux, ça me fait beaucoup rire, même si tant pis si vous comprenez pas l'accent québécois, ça aussi ça s'apprend. On se dit à dans 2 semaines pour un nouvel épisode de VoyageCast. Cette fois-ci je serai accompagné, je l'ai pas enregistré aujourd'hui, donc je ne sais pas vous dire sur quoi ce sera, mais dans les prochains VoyageCast on parlera de la Patagonie, probablement de la Birmanie et probablement de beaucoup d'autres pays, comme d'habitude. À dans 2 semaines, et à ciao, bonsoir.
Je sais jamais comment l'écrire, c'est compliqué le français.
Ben non, c'est pas compliqué, c'est quoi ton mot?
Foi, ça prend-tu un E?
Ça dépend, c'est-tu la foi ou le foi?
La foi. Ah ben oui, si c'est féminin, ça prend un E.
Non, si c'est la foi, ça prend pas de E.
Mais c'est quand que ça prend un E d'abord?
Quand c'est masculin, quand c'est le foi. Regarde, montre-moi ça, là. Non, mais toi, c'est la foi avec un S.
Non, le S, c'est au pluriel.
Oui, mais non, mais là, ça, c'est comme il était une fois. Donc, un S. Comme l'émission que tu regardes, La Voix, c'est La Voix X. C'est comme ça.
Mais le X, c'est parce qu'il y a plusieurs chanteurs.
Oui, mais non, on dit La Voix X.
Mais pourquoi c'est pas un E d'abord?
Parce que la voie E, c'est comme le chemin. C'est pas compliqué?
Oui, c'est compliqué.
Non, c'est pas compliqué. Écoute, moi, j'ai des trucs, la foi, là, croire, là, c'est souvent vide. C'est souvent pas vrai, donc il y a rien après. Tandis que la foi, comme une foi S, comme le foi E féminin, l'autre, c'est pluriel. C'est le contraire. Comme la voie X, sauf la voie E, le chemin. That's it, là.
C'est vrai que c'est pas compliqué, le français.